Voilà, chers amis auditeurs, doctrine sociale de l'Église, et maintenant on va retrouver Thomas Ayoré. Thomas Ayoré, ce soir, qui va nous donner donc, nous parler de la politique internationale, du point de vue en tout cas de la doctrine sociale de l'Église, sur la politique internationale et les migrations. C'est tout de suite sur Radio Maria France. Voilà, bonsoir Thomas et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonsoir, merci. Aujourd'hui, on va donc parler de la politique internationale et puis de la migration du point de vue de la doctrine sociale de l'Église. Peut-être un petit rappel hein, sur les principes de la doctrine sociale de l'Église pour commencer. Voilà, la doctrine sociale de l'Église, c'est ce que l'Église nous dit sur ce que c'est que d'être chrétien dans le monde, j'allais dire, réel d'aujourd'hui, de manière très concrète. Et la doctrine sociale de l'Église s'appuie souvent sur cinq principes qui permettent d'aborder un petit peu tous les sujets qu'on a rencontrés dans notre vie bien concrète. Et ces cinq principes, le premier, c'est la dignité de la personne humaine. Voilà, l'idée qu'on a tous été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et qu'on est donc tous infiniment dignes d'être aimés. Le deuxième principe, c'est le bien commun. Voilà, chercher le bien commun, c'est chercher à faire progresser tant le groupe que l'individu, donc tant chaque personne que l'humanité tout entière, vers leur pleine perfection. Voilà, c'est toutes les conditions qui permettent d'atteindre cette perfection, tant pour les individus que pour le groupe et l'humanité. La destination universelle des biens, c'est le troisième principe. C'est le principe selon lequel finalement tout ce qu'on possède, notre argent, nos possessions, l'immobilier, les vêtements qu'on a, les objets dont on dispose, et puis même nos talents, ont vocation à être utilisés non pas pour mon bien propre, moi qui les possède, mais ils ont vocation à être administrés en vue du bien commun. Donc voilà, tout ce dont je dispose, que je sache ouvrir un peu mon cœur pour que ce ne soit pas simplement ordonné à moi, mais ordonné au bien commun. Le quatrième principe, c'est la subsidiarité. L'idée que les décisions doivent se prendre le plus près possible du terrain, des personnes qui les appliquent ou qui les subissent. Ça, c'était la grande demande des Gilets jaunes, hein, que finalement les décisions puissent être prises par les simples citoyens. C'est également la demande finalement des enfants quand ils grandissent dans la famille et qui petit à petit veulent gagner en autonomie. Bah, finalement, c'est vraiment le principe de subsidiarité qui est derrière. Et puis le cinquième principe, c'est le principe de la solidarité. Alors la solidarité, c'est accepter de se donner pour l'autre, accepter de mourir un peu à soi pour l'autre. L'image parfaite de ça pour nous chrétiens, c'est le Christ qui est mort sur la croix pour nous. Donc c'est, voilà, c'est plus qu'une petite émotion passagère quand on voit quelqu'un qui souffre. Voilà, donc c'est les cinq principes. Donc on a déjà évoqué dans les dernières émissions comment ces cinq principes pouvaient se mettre en place dans la famille, dans le travail, dans l'économie. Et finalement, voilà, la doctrine sociale de l'Église, elle est vraiment pensée comme ça. C'est finalement l'amour qui grandit et qui tend à s'étendre, comme une petite surverse d'amour. L'amour, ça commence dans un cadre tout simple, tout petit, d'une famille, d'un couple. Et puis finalement, l'amour qu'on a appris qu'on a appris en famille, qu'on a découvert en famille, petit à petit, on est capable de le déployer, y compris auprès de groupes d'amis, dans son travail, dans son comportement de consommateur, etc. Et puis petit à petit, finalement, l'amour a envie de se diffuser et d'aller jusqu'aux confins de la Terre. Voilà, donc on en est justement arrivé là dans les derniers chapitres de la doctrine sociale de l'Église, quand on se parle de politique internationale, parce que voilà, on a parlé de la politique la dernière fois, peut-être plus la politique intérieure d'un pays, et là, l'amour, une fois qu'il a pu se déployer au sein d'un pays, au sein d'un État, l'amour n'a qu'une seule envie, c'est d'aller encore plus loin, et donc de nous parler de politique internationale. Alors, je crois qu'il faut accueillir simplement le fait que ce sujet est difficile. Voilà, autant déployer beaucoup d'amour pour sa femme, ses enfants, etc. Bon, on sait que c'est pas toujours facile, mais quand même, on réussit à voir assez facilement ce qu'il faut faire. Autant, finalement, on visualise bien qu'au jour le jour, la politique internationale, peut-être ça nous touche moins, ou à l'inverse, on peut avoir des difficultés à aborder ce sujet et à vraiment être dans une... dans une situation où on est vraiment en train d'aimer. Et ça, bah voilà, je pense qu'il faut l'accueillir simplement. Le sujet est difficile et donc on va voir un peu ce qu'on peut en dire. Voilà, là, en fait, bibliquement, on parle très souvent de l'unité de la famille humaine. Finalement, après Noé, puis Abraham, qui est nommé père d'une multitude de peuples, dans le Nouveau Testament, on voit apparaître la Pentecôte, où on témoigne de la possibilité de retrouver l'unité qui a été perdue à Babel. Et là, vraiment, on est dans la construction de la famille humaine. On se parle de communion. En tant que chrétien, c'est voilà, quand on se parle de la communion qu'on a à vivre ensemble, on est vraiment là-dedans dans la construction de la fraternité humaine qui a été voulue depuis les origines. Voilà. Cette construction de la communauté internationale, elle repose sur deux fondements que j'ai évoqués tout à l'heure. Hein. Le premier, le caractère central de la personne humaine, la dignité de la personne humaine, c'est vraiment sur ce fondement qu'on peut construire une vision commune de l'humanité. Alors ça peut sembler un peu bateau, un peu flou de dire que la construction de l'humanité, ça repose sur la personne humaine. Pour nous, chrétiens, il y a vraiment quelque chose de très profond là-dedans. Hein. Si on se sent tous frères et sœurs, c'est parce qu'on est tous fils et filles de Dieu. Voilà. Donc on n'est pas en train de dire une tautologie en disant l'humanité repose sur la personne humaine. Voilà, la construction commune internationale, elle se base sur le fait qu'on est tous frères et sœurs, et on est tous frères et sœurs parce que on est tous fils et filles de Dieu. Voilà, on se reconnaît tous frères parce que tous fils et filles de Dieu. Voilà, ça fait qu'on est naturellement porté à la relation, à la collaboration avec les autres, et finalement, ça nous emmène vers ce deuxième principe que j'ai cité tout à l'heure, qui est le bien commun, et qui permet de faire coexister des communautés politiques différentes, qui chacune, chaque État va chercher le bien commun de ses citoyens, mais dans l'idée que le bien commun de la France, le bien commun de l'Allemagne, le bien commun de l'Égypte ne sont pas séparés les uns des autres, et que finalement, la perfection de la France en tant qu'État n'est pas séparée du bien qui peut survenir en Égypte, ou qui peut être construit en Égypte, et finalement, on ne peut pas laisser complètement derrière certains pays en se disant nous, notre pays avance bien, donc on a bien fait notre boulot, et la France est un pays qui avance bien. Si on laisse les pays à côté à la traîne, finalement, sans doute qu'il manque quelque chose. Voilà, on s'en rend compte de plein de manières vraiment très concrètes. Hein, si on est les seuls à travailler sur l'aspect environnemental dans nos usines, et que tous les autres pays du monde continuent à polluer énormément, on sent bien qu'on n'aura pas résolu le problème de la pollution. L'immigration, on sent bien que si on travaille beaucoup sur la qualité de vie chez nous, mais qu'on se désintéresse complètement de ce qui se passe dans les pays, même parfois proches des nôtres, mais parfois plus lointains, et qu'on se désintéresse complètement des conditions sociales, etc., dans lesquelles vivent les gens, on sent bien que ça va forcément générer des envies, de l'immigration, etc. Et donc, on est vraiment invité là à retrouver l'image du bon samaritain. Hein. Le bon samaritain, c'est celui qui, en passant à côté de la douleur d'autrui, de la souffrance d'autrui, s'arrête. Il s'arrête pour relever son frère. Voilà. Et donc là, bien prendre conscience que notre bien commun à nous, en France, ne peut pas se désintéresser de l'état dans lequel se trouvent les autres pays. Voilà. En fait, au niveau des pays, les relations entre les peuples suivent un peu la même loi morale que les relations entre les hommes. On se parle d'unité du genre humain, bien sûr, il y a une unité entre les nations qui doit petit à petit se former. On peut parler d'égale dignité de chaque peuple, comme on parle de l'égale dignité des hommes. Alors, c'est pas la même dignité, bien sûr, mais peut se parler de l'égale dignité de chaque peuple. De la même manière qu'on a à peu près abandonné l'idée que pour régler un différend avec son voisin de maison ou d'appartement, on sorte les poings, il paraît normal de penser qu'il faut maintenant refuser la guerre pour régler les différends entre les peuples. Voilà, d'ailleurs, le pape, dans son encyclique récente, la Fratelli Tutti, revient sur ce sujet de la guerre en disant qu'aujourd'hui, il pense qu'il n'est plus possible qu'il y ait des guerres justes. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Et puis, de la même manière que avec mes voisins et dans la ville et dans le pays dans lequel je suis, on est appelé à coopérer en vue du bien commun, les peuples entre eux sont appelés à coopérer en vue du bien commun. Voilà. Voilà, on se dit du coup que de tout ça doit naître l'idée d'un droit au développement pour tous les peuples. Et malheureusement, l'Église nous fait prendre conscience que ce droit, il est souvent mis à mal par des structures de péché. Alors, je reviendrai un peu plus tard sur ce que c'est que des structures de péché. Mais voilà, il y a des choses à la fois internes dans certains pays qui ont du mal à se développer, et puis externes à ces pays qui font qu'ils ont du mal à se développer. Alors, en interne, souvent, il y a des problèmes d'analphabétisme, d'insécurité alimentaire, de services trop faibles, de corruption dans le pays, que ce soit dans les administrations ou même dans les entreprises. Il y a des problèmes d'administration d'État inefficace, il y a des problèmes de lutte entre ethnies ou entre groupes sociaux. Donc il y a vraiment des problèmes internes qui chacun sont des structures de péché. Et puis il y a des problèmes externes également. Et il faut se rendre compte que parfois, il y a des choses qui viennent de l'extérieur et qui empêchent les pays qui auraient besoin de plus de développement de se développer. Voilà. Il y a certaines logiques de marché financier, notamment, qui font qu'il est difficile pour des pays de vraiment se relever. Quand tous les biens sur le marché mondial s'achètent en dollars, en euros, etc., finalement, un pays qui travaille pas avec ses devises, dont c'est pas les devises principales, aura du mal à bien s'insérer dans le marché économique mondial. Voilà, l'Église nous invite à prendre en considération qu'au-delà de la logique de marché, on a vraiment un devoir, nous, j'allais dire, nation riche, aisée, on a vraiment un devoir de solidarité, de justice sociale, de charité universelle vis-à-vis des autres. Alors moi, j'ai été très choqué il y a quelques années, j'étais en Égypte en expatriation, de découvrir que la France vendait des armes extrêmement chères, hein, des milliards et des milliards d'euros, à l'Égypte, alors même en plein milieu d'une crise financière énorme en Égypte, où la monnaie dévissait et l'économie tenait plus, et la France vend des armes. Alors on peut se dire pourquoi l'Égypte achète, ça c'est une autre question, mais le fait que nous on vende, voilà. Est-ce qu'on était dans cette position du frère qui appuie un frère, enfin qui aide un frère? Est-ce qu'on était dans la position du Samaritain qui s'arrête pour relever son frère? L'Église nous interroge aussi régulièrement, hein, sur la dette des pays pauvres. Elle nous dit les dettes, il faut les rembourser, ça c'est le principe d'une dette. Par contre, elle nous dit, si jamais ça vient à rendre impossible tout développement et impossible tout fonctionnement à l'intérieur du pays, la dette n'est pas un absolu non plus. Ce qui est un absolu, c'est la recherche commune du bien commun et c'est la dignité de tous les hommes. Voilà, on reviendra sur la solidarité, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors comment calibrer les relations internationales? Voilà, il y a beaucoup de choses de l'ordre de la solidarité, on en a parlé, mais j'allais dire même entre pays un peu plus semblables, par exemple au sein de l'Europe, etc., le magistère reconnaît, donc l'Église reconnaît qu'il est important que chaque pays puisse avoir une souveraineté nationale, avec notamment l'idée de résistance aux agressions, aux guerres, etc. Mais cette souveraineté n'est pas un absolu, et par exemple, Il y a des très bonnes initiatives qui ont été prises en Europe, en Amérique latine, etc., pour que certaines nations finalement renoncent à l'exercice de certains droits pour faire remonter des responsabilités à un niveau supérieur pour nous, par exemple l'Europe, en ayant conscience qu'on est tous une seule famille. Voilà. Typiquement, les sujets environnementaux sont beaucoup gérés par l'échelon européen chez nous. L'Europe a été construite sur les marchés de charbon et de l'acier. Alors à l'époque, c'était pour s'empêcher de faire la guerre. On a travaillé sur les matières premières de la guerre ensemble pour éviter de se faire la guerre les uns aux autres. Un peu l'inverse de ce que Trump a pu faire il y a quelques mois quand il a commencé à taxer l'acier de tous les côtés. Et donc, tout ça, c'est des instruments internationaux qui nous permettent ensemble de construire un bien commun. Voilà. Il paraît clair aujourd'hui hein, que les États ne peuvent plus porter certains sujets qui leur sont complètement sortis des mains. Voilà. La transparence d'Internet, c'est des sujets que plus aucun État ne peut porter. La pollution des océans, même les migrations, etc. Et donc, l'Église nous dit, aujourd'hui, il y a des sujets qui ne marchent plus au niveau des États, et donc il faut faire remonter. Alors on dit, c'est presque contre-intuitif, mais on dit remonter par subsidiarité. La subsidiarité, c'est qu'il faut prendre les décisions le plus près possible du terrain, mais là où elles sont bien prises. Et donc, quand elles ne peuvent plus être prises à un certain niveau, il faut les faire remonter par subsidiarité. Donc, c'est-à-dire les États qui constatent qu'ils ne peuvent plus gérer un sujet doivent construire des organismes, des organisations, ou doivent transférer à certaines organisations la gestion de certains sujets qu'ils ne peuvent plus gérer. Alors, il y a des ONG hein, qui s'occupent de tout un tas de choses. Dans le domaine caritatif, on en connaît beaucoup, hein, la Croix-Rouge, etc. Enfin, il y en a beaucoup dans plein de domaines différents. Et puis, il y a également des organismes un peu plus officiels, l'ONU, l'UNICEF, etc., qui sont toujours des bonnes initiatives et sur lesquelles il faut bien réussir à construire finalement des organismes qui recherchent le bien commun, qui ne recherchent pas leur puissance en tant que telle, mais qui recherchent leur bien commun tout en se comprenant pas comme des super-États, mais comme le fruit des accords et comme devant résoudre les problèmes qui ne peuvent pas être résolus à des niveaux inférieurs. Voilà. Donc ça, c'est quelques notions d'organisation et puis de politique internationale que l'Église nous invite à avoir. Et notamment, toute cette question de solidarité vis-à-vis des pays les plus pauvres. L'Église nous dit d'ailleurs que dans les organismes type ONU, etc., il faut vraiment prendre conscience que ces organismes doivent, dans leur manière même de fonctionner, doivent donner une vraie place aux pays les plus pauvres. Si jamais on ne donne la place dans ces organismes pour parler, pour décider, etc., qu'aux pays les plus riches, ceux qui sont les plus dominants économiquement, militairement, etc., finalement, on est en train de louper quelque chose parce qu'on est en train de pas réussir à construire le bien commun, mais à juste construire le bien de ceux qui dominent. Voilà, alors ça, c'était les relations entre États. Alors, on voit bien que c'est un sujet dont on peut se sentir un peu loin. D'abord, comme je le disais dans la petite surverse d'amour, la petite et grande surverse d'amour dont je parlais tout à l'heure, il arrive un peu au bout. Et donc, peut-être qu'on peut, dans certains sujets, s'être arrêté à « je réussis pas à aimer mes collègues de travail » ou « je réussis pas à aimer... » ma belle-mère, ou je réussis pas, etc. Et du coup, que l'amour réussisse pas à déborder jusque-là. Et donc, peut-être que tout ça, ça peut être un peu distant pour nous. Et puis ensuite, il y a un sujet qui, bien sûr, vient tout de suite quand on parle de relations internationales et de politique internationale, c'est la question de l'accueil des migrants. Alors là-dessus, pour le coup, les migrants, ils viennent concrètement nous rencontrer. On les voit. Alors moi, j'ai été migrant dans un mode particulier quand j'étais expatrié en Égypte, mais il y a des personnes étrangères qui viennent en France. Et sur ce sujet, bah, on sait que entre chrétiens, c'est un sujet de friction. Voilà, je pense qu'il faut aussi se le dire, comme ça, clairement. Sur ce sujet, c'est une friction. Alors, j'attire tout de suite votre attention. Je vais sans doute en brusquer l'un ou l'autre dans ce que je vais dire dans les prochaines minutes. Mais voilà, j'attire toujours tout de suite votre attention sur le fait que ce sujet de la migration fait sans doute débat parmi les chrétiens, mais l'Église n'est pas en débat avec elle-même. L'Église a une position très claire. L'Église, dans sa doctrine sociale de l'Église, elle nous parle d'accueil inconditionnel des migrants. Les trois mots sont importants. Accueil, inconditionnel. Inconditionnel, ça veut dire sans condition, des migrants. Alors, on a le droit, hein, de ne pas toujours être d'accord avec l'Église. Mais notre devoir de baptiser, pour tous ceux qui sont baptisés, c'est d'avoir une bienveillance a priori sur les positions de l'Église et de chercher à vraiment comprendre ce qu'elle nous dit. Voilà. Donc, si certains, et je pense finalement que ça nous concerne un peu tous, mais voilà, si on se sent remué par les positions de l'Église sur la migration que je vais un peu développer, je crois qu'on est invité à lire, à vraiment comprendre ce que l'Église veut nous dire, alors peut-être en écoutant les prochaines minutes, et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, bah, je pense que c'est intéressant de lire l'encyclique Laudato si, avec spécialement cette intention de réfléchir à soupeser notre vision sur l'immigration, ce qu'on pense de l'immigration, et à se questionner sur pourquoi parfois on n'est pas en communion avec l'Église avec ce sujet. Il faut vraiment informer notre jugement, si on pense devoir avoir un jugement différent de celui de l'Église, il faut vraiment chercher à comprendre, et ça c'est vraiment notre rôle de chrétien. Voilà, petite introduction qui me permet du coup de commencer un peu le sujet. Alors l'Église, elle reconnaît, avant de parler de ce qu'elle nous propose, l'Église, elle reconnaît d'abord que les flux migratoires, c'est un phénomène impressionnant. Elle nous parle d'un phénomène qui impressionne en raison du nombre de personnes qui les concernent, des problématiques sociales, économiques, politiques, culturelles, religieuses qu'elle soulève, et à cause des défis dramatiques qu'il lance aux communautés nationales et à la communauté internationale. Voilà, donc l'Église ne mâche pas ses mots, elle sait bien, dans son cœur, que le sujet est difficile. Ensuite, elle nous dit, finalement, il y a une première chose qui est vraiment importante, c'est que chaque personne a le droit de s'établir où il le souhaite. Voilà, le droit de s'établir où il le souhaite. Alors pourquoi? Voilà, d'abord, une petite notion de destination universelle des biens. Les biens, ils sont destinés à la croissance de chacun. Ils sont destinés à aider chacun à contribuer au bien commun. Et dans les biens auxquels on peut penser, il y a le territoire. Le territoire, c'est un bien comme un autre. Alors, il faut l'administrer en vue du bien commun. Et le bien commun, bah, c'est bien sûr le bien de toute l'humanité. Voilà, donc de là vient le droit de s'établir là où on le souhaite pour pouvoir trouver les meilleures conditions de sa participation au bien commun. Voilà. Donc, si certains pensent que venir dans tel ou tel pays leur permettra de contribuer au bien commun, eh bien, ils doivent avoir le droit de le faire. Voilà, le droit d'émigrer, c'est bien évidemment un droit familial, hein, pour l'Église. Contribuer au bien commun, on le fait forcément avec sa famille. Et en tout cas, partir en laissant sa famille est forcément un déchirement pour certains. Voilà. Mais avant même le droit de migrer, l'Église, elle reconnaît d'abord le droit de ne pas migrer. Et on sait bien que dans beaucoup de pays, il y a de la précarité économique, il y a des catastrophes naturelles, des guerres, des conflits, etc. La Sainte Famille elle-même a dû s'exiler en Égypte, et on sait que c'est lié à beaucoup de souffrances. C'est lié à beaucoup de souffrances qui elles-mêmes, bah, finalement, tirent vers une espérance. Les gens espèrent quand ils migrent, qu'ils vont pouvoir construire le bien commun ailleurs. Voilà. Et donc finalement, bah, l'Église nous fait prendre conscience que pour travailler sur l'immigration, la première chose qu'il faut faire, bah, c'est améliorer l'existant dans les pays d'origine. Voilà. Comment on travaille sur cette précarité économique, sur les guerres et conflits, etc., pour que chacun puisse être bien dans son pays. Voilà, ça c'est la première chose. Et du coup, bah, un mot qu'on entend souvent, hein, c'est la guerre économique. Je pense qu'il faut vraiment qu'on s'interroge quand on parle de guerre économique. Souvent, en plus, on en parle. Alors, on peut en parler contre des pays qui sont riches et développés, comme les États-Unis, mais souvent, on en parle, j'allais dire contre, je crois que le mot est bien choisi, mais contre des pays comme la Chine, l'Inde, etc., qui ne sont pas du tout au même niveau de développement social, économique, etc. Voilà, faut se poser la question, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et quand on promeut une guerre économique, est-ce qu'on est vraiment en train de le faire pour le bien commun ou est-ce qu'on est en train de le faire pour notre bien propre? Voilà. Donc ça, c'est l'introduction sur ce sujet de la migration. Le droit de s'établir où on le souhaite, que l'Église nous signale et nous donne comme une première clé de lecture sur le sujet de la migration. Ensuite, elle vient également nous interroger sur des choses qui empêchent la bonne intégration des migrants, où qu'ils soient, et quel que soit leur style et les raisons pour lesquelles ils ont pu migrer. Et ces raisons qui peuvent empêcher une bonne intégration, bah, il y en a des deux côtés. Il y en a de la part des migrants eux-mêmes, des accueillis, et puis il y en a de la part des accueillants. Il y en a de la part de finalement ceux qui accueillent. Alors de la part des accueillis, des migrants, ben on sait que voilà, parfois le fonctionnement en minorité, alors chacun a le droit de chaque minorité a droit d'existence et puis de garder ses cultures, ses pratiques religieuses, etc. Mais par contre, il est important que chacun coopère au bien commun de l'État dans lequel ces communautés s'insèrent. Voilà, le droit à la migration, il est appuyé sur la recherche du bien commun. Donc bien évidemment, il se juge aussi à l'aune de ce critère. Et donc, bah, bien évidemment, des migrants qui viendraient en France mais qui pratiqueraient la polygamie, ben on sent bien qu'il y a, il y a quelque chose qui est pas bon dans le respect du bien commun, qui est vraiment celui qu'on promeut en France, qui est que ben la polygamie, finalement, est quelque chose qui ne nous paraît pas œuvrer dans le sens du bien commun. Voilà, ils doivent les migrants, au contraire, chercher à soutenir les valeurs de la société qui les accueille. Alors chez nous, ça peut être les droits des femmes, la liberté de religion, etc. Pour moi qui ai vécu dans un pays en Égypte, bah là-bas, il y a quelque chose qui est vraiment très important, c'est l'accueil de l'autre. Bah, je pense que les Français qui vivent en Égypte sont appelés et sont amenés et appelés à vivre le mieux possible l'accueil de l'autre, parce que peut-être que parfois on n'est pas aussi bon que les gens qui sont là-bas. Voilà, pour les accueillis, voilà, garder sa culture, sa langue, c'est normal. Par contre, voilà, faut faire attention à ce que ce soit pas une voie ouverte au communautarisme et donc au repli d'une communauté par rapport à la nation qui accueille. Voilà, le bien commun, c'est bien chacun progresse et tous ensemble. Donc il y a bien le côté tous ensemble. Si c'est pour se replier sur soi-même, il manque quelque chose. Voilà. De la part des accueillants. Et alors c'est là que l'Église vraiment nous interpelle vivement, et le pape le fait avec une vigueur sans cesse renouvelée. Voilà, le pape nous interpelle vraiment sur ce qui fait que de notre côté de pays riche, on n'accueille pas assez bien les personnes migrantes. Alors il nous dit, hein, qui est responsable du sang des immigrés? Voilà. Personne ne se sent responsable des morts dans la mer Méditerranée. On est comme le prêtre de la parabole du bon samaritain qui passe à côté du blessé en se disant « mais c'est pas moi qui l'ai fait, je passe mon chemin voilà. ». Et souvent, mais c'est sûr que l'arrivée des migrants, des personnes déplacées, etc., suscite chez les populations locales suspicion et hostilité, nous dit l'Église. Et on peut avoir peur qu'il y ait des bouleversements dans la sécurité, qu'on risque de perdre notre identité, notre culture, que ça augmente le chômage, qu'il y ait des nouveaux facteurs de criminalité, etc. Et le pape nous dit, bah, parfois ça génère, de la part de ceux qui devraient être dans une position d'accueil, de la violence, de l'exploitation, des discriminations, de la marginalisation, aussi bien des individus que des collectivités. Et ça, le pape nous dit, c'est une structure de péché. C'est une structure de péché, c'est l'une d'ailleurs des plus couramment citées par l'Église hein, dans ses textes historiques. La structure de péché, finalement, de la division entre pays riches et pays pauvres, et le fait un peu de chercher à maintenir cette division et de maintenir cette hiérarchie entre les pauvres d'un côté et les riches de l'autre. Alors, une structure de péché, qu'est-ce que c'est? Une structure de péché, c'est un péché qui tend à se reproduire. C'est un péché qui tend à se reproduire, à perdurer. Alors comment ça marche? Il y a cinq actions qu'une structure de péché fait couramment, qui est que d'abord elle recrute. On peut par exemple poser sur des migrants des exigences démesurées. Se dire les uns aux autres, ah mais celui-là, ceux-là, ils restent entre eux pour manger, ils ne s'habillent pas comme nous, ils ont un culte dans leur langue, ils prient dans la rue, etc. Et puis s'entraîner les uns les autres dans cette critique. Voilà, ça c'est vraiment le fait de s'entraîner les uns les autres, c'est vraiment le recrutement par cette structure de péché. La structure de péché, elle détruit le bien commun. Alors ça, là, c'est évident, c'est les migrants contre les natifs, il y a vraiment du « eux contre nous », etc. Donc là-dessus, il y a vraiment une destruction du bien commun. Et puis finalement, quand on parle de la France, par exemple, on prie pour la France à la messe régulièrement. Finalement, une chose qui est importante, hein, la France, c'est un outil au service du bien commun. La France n'est pas un objectif en soi, une fin, c'est pas une fin en soi, c'est un objet au service du bien commun. Et donc, la nation n'a de droits que ceux qui découlent des droits de l'homme, que ceux qui découlent de cette construction du bien commun. Une structure de péché également, elle affaiblit la conscience. Donc elle fait croire que ce qui est un péché n'en est en fait pas un. Voilà. Quand on se pose la question, là, qui est responsable du sang des immigrés, ben, personne ne se sent responsable. On se retranche derrière un droit des nations un peu impersonnel pour éviter d'aller chercher comprendre, pour éviter d'aller vraiment comprendre quels sont les actes individuels qui justifient et construisent ça. Et puis on se dit, ils n'ont qu'à faire ça, ils n'ont qu'à faire ça, etc. Là, il y a vraiment un affaiblissement de notre conscience collective. La structure de péché, elle englue. Elle englue. Une fois qu'on a commencé à dire du mal de migrants, ben on a du mal à redevenir frère avec ces personnes-là. C'est possible, hein. Le pape d'ailleurs dans son encyclique récente Fratelli Tutti nous donne un chemin pour retrouver la fraternité après une période de tension. Mais voilà, une fois qu'on est rentré dedans, on peut se trouver englué dans ça. Et puis la structure de péché, elle écarte ceux qui sont pas d'accord. Voilà. On traite d'inconscients ceux qui veulent accueillir les étrangers, on pénalise ceux qui veulent les aider à la frontière, etc. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui fait partie de la structure de péché elle-même. La structure de péché, donc elle fait cinq choses, hein. Elle recrute, elle détruit le bien commun, elle affaiblit la conscience et elle englue et elle écarte ceux qui ne sont pas d'accord. Alors finalement, il y a une bonne nouvelle dans tout ça, et heureusement, là, on sort tout juste de Pâques. La bonne nouvelle, c'est que l'Église nous donne une arme contre les structures de péché, et que cette arme, c'est la solidarité. Voilà. Et on sent bien que sur ce sujet, il y a des petits actes de solidarité un peu simples qui peuvent commencer à renverser la vapeur. On sent bien que voilà, l'immigration, il y a quelque chose qui est de l'ordre du signe des temps, de l'endroit où on en est dans l'histoire du salut, il y a une communion universelle à rejoindre, voilà, on est dans une phase de mondialisation, voilà, petit à petit on a à apprendre les relations entre les peuples, et on sent qu'on va avoir besoin de donner un peu de nous-mêmes. Pour rééquilibrer peut-être des injustices de départ, hein. Pourquoi est-ce que moi je suis j'allais dire bien portant et riche en tout cas plus que beaucoup dans des pays beaucoup plus pauvres, parce que je suis né là où je suis né et que eux sont nés là où ils sont nés, donc il y a vraiment une injustice de départ à rééquilibrer, et puis voilà, on a des actes à faire pour être capable de sortir un peu de nous-mêmes, comprendre ce que les autres peuvent nous apporter. Moi, j'ai toujours été marqué par les musulmans qui font 5 prières par jour, qui se lèvent tous comme un seul homme à 3 heures de l'après-midi là, pour aller faire la prière ensemble. Je crois qu'on a des choses à... On peut se laisser bousculer aussi par les autres et puis, par le contact avec les autres, découvrir où est-ce qu'on a des manques d'amour. Et puis, bah, voilà. Comment bah, le pape nous dit... si certains États peuvent accueillir jusqu'à 20, qu'ils le fassent, peut-être que d'autres peuvent accueillir plus. Le pape nous dit bah, faut accueillir dans vos communautés, dans vos maisons, dans les couvents vides. Il ne faut pas juste assister, mais il faut intégrer. Il nous dit d'accueillir, protéger, promouvoir et intégrer dans cet ordre-là. Il nous dit de mettre en place une pastorale particulière en vue des personnes qui sont migrantes. Sans doute des réglementations qui doivent avancer. Et finalement, toujours partir plutôt de la question « qu'est-ce que je peux faire ?» que de la question « pourquoi ils veulent venir ?» voilà. Quel droit est-ce que j'aurais de refuser l'accueil ? Est-ce que ce terrain m'appartient ? Est-ce que le pourcentage de mes voisins qui vont à la messe et pas à la mosquée m'appartient ? Est-ce que l'existence d'une mosquée dans mon quartier, ça m'appartient ? Voilà. Adam, où est-ce Cain, où est ton frère? Voilà. Je crois qu'il faut qu'on soit vraiment capable de se laisser bousculer par ces questions. Où est le sang de ton frère? Et du coup, bah, le passage à des actes de solidarité, voilà, j'en parle un peu dans mon livre Vivre en chrétien Kézako, là, mais des actes de solidarité, est-ce qu'on peut prendre un peu de temps pour des migrants qui vivent proche de chez nous, est-ce qu'on peut les aider à trouver un travail, à apprendre le français, à découvrir les droits et les devoirs chez nous, etc. Est-ce qu'on peut accepter de payer nos impôts sans l'arrière-pensée de dire que ça va contribuer au financement de la sécurité sociale pour des gens qui sont étrangers et qui sont venus, et est-ce qu'on peut donner de l'énergie, etc. Et finalement, tous ces actes de solidarité, l'Église nous dit, voilà, c'est par la solidarité que vous allez tuer les structures de péché, détruire ces structures de péché. C'est vraiment pas un hasard si c'est la solidarité qui détruit les structures de péché. Voilà. Faire ça, là, payer ses impôts et accepter qu'une partie puisse aller vers des étrangers, accueillir, même si ça peut être un risque pour l'emploi, etc., c'est accepter de donner un peu. C'est accepter de se donner pour l'autre. C'est accepter de, j'utilise des mots un peu forts, c'est accepter de mourir un peu à soi pour l'autre. Voilà, comme le Christ sur la croix. Alors, à notre niveau, bien sûr. Mais je crois qu'on est vraiment invité à prendre son exemple pour guider nos pas. Voilà. Est-ce que sur ce, je crois qu'il faut qu'on se pose la question chacun, est-ce que sur le sujet des migrants, quand je parle des migrants, quand j'en vois, est-ce que je ressemble au Christ sur la croix qui meurt pour moi? Voilà. Et une fois qu'on fait des petits actes de solidarité, qui ne sont pas de même nature que celui du Christ sur la croix, une fois qu'on fait des petits actes comme ça, je pense qu'il faut qu'on soit attentif aux signes qui nous montrent que cette structure de péché, du manque d'accueil, chez moi, voire chez nos voisins, voire chez mes voisins, chez mes proches, etc., que cette structure de péché commence à se déliter. Voilà. Et on va voir petit à petit que du péché, la vie va renaître grâce à ces actes de solidarité. Et ça doit vraiment renforcer en nous la foi. On sort tout juste de Pâques, la joie de Pâques, elle est encore vive dans nos cœurs. Ça doit vraiment renforcer en nous la foi que Jésus est mort et ressuscité pour nous, et que c'est vraiment ça qui est en train de se revivre à l'intérieur de chacun de nos vies. Donc je crois qu'on est vraiment invité à ça, sur ce sujet de la migration, à chercher des petits actes de solidarité. Il faut vraiment commencer tout simple, des choses faciles, mais faisons-les pour pouvoir mettre nos pas dans ceux du Christ ressuscité et augmenter en nous la foi. Voilà, je vous propose sur ce sujet-là sur lequel on a sans doute tous des actes de conversion à poser, je vous propose tout simplement de terminer par un « Je vous salue Marie » ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Amen. Merci beaucoup Thomas, merci infiniment.
Oui, avec plaisir.
Au revoir. Bonne soirée.